Bonjour et bienvenue à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la liberté retrouvée de Carlo Strenger, le philosophe israélien, met en garde contre notre passivité face à la perte de sens qui mine nos sociétés. Il faut retrouver le sens d'une véritable responsabilité citoyenne. L'auteur de « Allons-nous renoncer à la liberté » sera l'invité aujourd'hui de la seconde partie de la Grande Table. Avant cela, plongé dans un monde sans preuve, celui des apparitions, un film qui tient du miracle pour le déjà réalisateur de « À l'origine » et de « Marguerite », Xavier Giannoli, et notre premier invité pour son canonissime « L'apparition » qui porte haut Vincent Lindon à l'écran, à retrouver et écouter tout de suite sur France Culture ou si vous le souhaitez un peu plus tard en podcast sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Dans l'apparition en salle mercredi, il y a la révélation Galatea Bellugi en Anna et le très confirmé Vincent Lindon dans la peau de Jacques, reporter de guerre sur la ligne de flottaison, fidèle ainsi aux mots et à l'état du journaliste écrivain Jean Hatzfeld. Dans un de ses ouvrages, après un long séjour en Tchétchénie, il décrivait ainsi son état mi-traumatisé, mi-tentant de se retrouver. À la demande du Vatican, Jacques mène donc une enquête canonique chargée de faire la lumière sur des apparitions présumées. Anna dit avoir vu la Vierge, mensonge. Ou vérité, y croire ou pas, l'apparition bande-annonce.
Vous étiez déjà venu au Vatican ?
Non, jamais, c'est la première fois.
Savez-vous ce qu'est une enquête canonique ? C'est une commission d'enquête que les autorités religieuses décident de rassembler pour enquêter sur un événement particulier, comme par exemple une apparition.
Qu'est-ce que ça veut dire une apparition ?
Une apparition de la Vierge Marie.
Disons que l'Église préférera toujours passer à côté d'un véritable phénomène plutôt que de valider une imposture. Toujours.
La jeune voyante s'appelle Anna. Depuis ses visions, elle est très très protégée.
Ne vous rien à cacher.
C'est une illuminée, un point c'est tout.
Pas d'histoire d'argent caché ou autre, on n'a rien trouvé.
Jamais de fugue, pas de problème. Solitaire.
Elle a passé sa vie à être baladée de foyer en famille d'accueil, ça laisse forcément des traces.
Le diocèse vient de demander l'analyse de la relique avec le sang.
Voyez, tous nos cadeaux pour les paroisses qui nous soutiennent.
Mais alors c'est quoi ? Les pauvres gamines qui sont incapables d'affronter la vie, les autres, c'est ça ?
Il y a trop de colère en vous pour accepter ce que j'ai vu.
Bonjour Xavier Giannoli.
Bonjour.
Et vous ? On croit qu'en quoi ? En quoi ? En quoi ? En quoi croyez-vous ?
En quoi je crois ? Je crois d'abord au cinéma, puisque là, mon premier instinct en lisant ce fait divers dans un journal où il était question d'une enquête canonique sur une apparition présumée de la Vierge, j'ai une réaction de sceptique. Et puis en même temps, quelque chose m'intrigue, me touche, le grand mystère. Et donc j'y vois une bonne situation de cinéma, et en fait j'y vais en croyant avant tout au cinéma, avec l'espoir que ça m'amènera à me demander en quoi on peut croire, en quoi on peut encore croire aujourd'hui. Voilà.
La croyance, l'envie d'y croire, c'est la source aussi de la relation entre le spectateur et le réalisateur, non ? Quand vous dites, c'est pas étonnant, que vous croyez avant tout dans ou au cinéma, c'est aussi cette relation qui est en jeu pour un réalisateur quand il fait un film, l'envie que son public croit au récit qu'il a voulu porter. Est-ce que la pire des choses que vous pourriez entendre aujourd'hui, après que votre film ait été vu, ce serait « Xavier, ton histoire n'est pas crédible » ?
D'abord, personne ne me l'a dit, donc Dieu merci, tout va bien. Dieu merci, c'est le cas de le dire. Et puis, je crois même que c'est ça qui m'intéresse. C'est, pour moi, le geste cinématographique, il est un geste de croyance et d'envie de faire croire au spectateur à ce qu'on raconte. Et d'ailleurs, je suis aimanté par les destins a priori incroyables. Mon précédent film, Marguerite, c'était l'histoire d'une cantatrice qui chantait complètement faux et qui pourtant a été un phénomène voilà, dans les années 40. Avant, j'avais raconté l'histoire d'un homme qui avait construit une autoroute au milieu d'un champ en se faisant passer pour pour un entrepreneur. Et je me dis tout le temps, mais c'est pas possible, comment les gens ont pu y croire et comment je vais y faire croire. Et pour moi, peut-être que le cinéma commence là, en allant à la... avec un désir d'aller au contact de la réalité et d'essayer d'imposer par les images une sensation ou une impression de vérité, alors que justement ces histoires sont incroyables et qu'elles sont la plupart du temps des histoires réelles.
Et le cinéma a toujours flirté avec cette question des croyances, hein, qu'on pense à Dreyer avec Jeanne d'Arc, qu'on pense à Robert Bresson avec Le procès de Jeanne d'Arc et le journal d'un curé de campagne, qu'on pense aussi à Maurice Pialat avec Sous le soleil de Satan. Ils se sont tous demandé aussi comment filmer l'invisible, comment questionner par le cinéma ce mystère de la foi, le sacré. Vous, quel parti pris est le vôtre, ou quel parti avez-vous pris pour tenter de répondre à ces questions?
En fait, vous avez cité des films où il est directement question de la foi et de la croyance. En fait, ce ne sont pas les films, pour moi, qui m'ont amené le plus à m'interroger. Si je pense à des souvenirs très forts de spectateurs, un film comme Apocalypse Now, par exemple, on y suit un personnage, d'après Joseph Conrad, hein, on y suit un personnage dont on a l'impression qu'il s'invente un dieu pour pouvoir le tuer. Donc, moi... très étrangement, les films qui questionnent le plus l'illusion, la foi, la vérité, le mensonge, ne sont pas forcément des films qui parlent directement de ces sujets-là. Mon parti pris dans ce film, il a été de suivre une intuition, une part un peu aveugle, hein, qui doit avoir avec mon éducation, les doutes que j'ai, les doutes que je crois beaucoup ont. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce qu'on peut croire aux forces de l'esprit ou pas? J'avais envie de savoir où j'en étais. Et j'avais envie de mettre... la croyance à l'épreuve des faits. Donc, la figure du journaliste a été mon point de vue. Il arrive sans a priori. Je ne fais pas un film où je me moque des apparitions, où je me moque des bondieuseries. C'est pas du tout mon rapport à la vie et à ces choses-là. J'ai un profond respect pour cela et un trouble sincère et étrange. Et en même temps, je n'avais pas du tout envie de faire un film qui fasse du prosélytisme et qui exalte comme ça, qui ait une espèce de complaisance. Voilà, non, je cherche mon chemin. J'avais lu en écrivant des livres comme le livre d'Emmanuel Carrère, Le Royaume. J'avais relu Ernest Renan, La vie de Jésus. Et j'aimais cette idée de faire un film avec la figure cinématographique de l'enquête qui avance dans cette part aveugle et mystérieuse, et d'essayer de voir en quoi je pouvais croire.
Le Royaume d'Emmanuel Carrère, qui se termine sur quel mot?
Alors ça a été très important, puisque la dernière phrase du Royaume, c'est « je ne sais pas ». Et d'ailleurs, après un tel livre, c'était très beau de terminer par « je ne sais pas ». Et donc, mon film est traversé évidemment par cette influence.
Et on en déduit que vous ne savez peut-être toujours pas, vous aussi, Xavier Giannoli, mais le parti pris est quand même très important, celui de la preuve. Et pour faire ce film, vous vous êtes aussi beaucoup documenté, c'est-à-dire que vous n'y êtes pas allé simplement sur des sensations, des croyances diffuses. Ce parti pris de l'enquête, c'est-à-dire de la recherche de preuves dans un monde a priori sans preuves, c'est ce qu'on retrouve aussi dans cette mission qui est donc confiée à Jérôme Lindon, Jacques, dans le film, par le Vatican.
Alors voilà, il y a tout juste 2 ans, une jeune fille de 16 ans a affirmé avoir eu une apparition dans la région de Carbara, dans le sud-est de la France.
Qu'est-ce que ça veut dire, une apparition?
Une apparition de la Vierge Marie. Alors la plupart du temps, ces choses-là se calment d'elles-mêmes avec l'intervention du prêtre de la paroisse ou d'un bon psychiatre. Mais parfois le phénomène prend de l'ampleur et les pèlerins commencent à affluer sur les lieux des apparitions, enfin des supposées apparitions. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer là-bas. La préfecture parle désormais de troubles à l'ordre public. La jeune voyante s'appelle Anna. Depuis ses visions, elle est très très protégée par le prêtre de la paroisse, un franciscain qui ne répond plus à nos demandes de renseignements, le père Borodine. Il a même refusé de nous laisser saisir une prétendue relique pour la faire analyser. Un linge taché de sang que la Vierge aurait laissé aux fidèles. Il est même question de construire une nouvelle église. Enfin, la situation devient de plus en plus préoccupante.
Quand je dis des bêtises, Xavier Giannoli, il faut me reprendre. Ça marche comme ça. Donc, Vincent Lindon et pas Jérôme Lindon, qui est un auteur POL par ailleurs, comme Emmanuel Carrère, qui est l'auteur du Royaume. L'Église préfère toujours passer à côté d'un véritable phénomène plutôt que de valider une imposture, lui dit le prêtre à ce moment-là, quand il y a cette rencontre qui se fait et cette mission qui lui est donnée lorsqu'il est au Vatican. Qu'est-ce qu'il faut à une apparition aujourd'hui pour être connue? Est-ce qu'elles sont encore nombreuses?
C'est une très longue enquête, c'est ce que j'ai découvert et c'est ce qui m'a fasciné. Alors c'est un milieu assez fermé, assez secret, en même temps pas d'une façon sulfureuse, c'est simplement la discrétion de l'Église. Mais ce qui m'a intéressé en parlant, j'ai rencontré par exemple un historien qui s'appelle Joachim Boufflet, qui a écrit un livre qui s'appelle « Faussaire de Dieu », où il fait une sorte de catalogue de tout ce que des gens ont pu inventer pour faire croire à une apparition ou un miracle. Bon. Et il m'a aussi enseigné comment la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui est au Vatican en tout cas, diligente des enquêtes, fait passer des interrogatoires, peut réunir, c'est l'évêque d'une région qui peut décider qui va composer la commission, des scientifiques, des journalistes, des ecclésiastiques, qui il veut. C'est à la discrétion, c'est le cas de le dire, de l'évêque. Et puis on fait une enquête, on réunit des témoignages, on fait passer des interrogatoires. Tout ça est très cadré. Tout ça est fait avec bienveillance, mais une absence totale de complaisance. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, déjà, ces phénomènes apparitionnaires divisent l'Église. Il faut surtout pas croire que l'Église cherche absolument ça, tout simplement parce que un chrétien moderne n'a pas besoin forcément de cela, mais ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas la croyance et le désir de croire dans ces choses-là. Et une fois qu'on a rassemblé tous ces documents et fait cette enquête, eh bien, un évêque peut décider de déclencher la reconnaissance ou pas d'un fait surnaturel. Ça s'est passé pas plus tard que ce week-end, où à Lourdes, il y a eu la reconnaissance d'une guérison miraculeuse après une longue enquête, après des avis de médecins, des études de dossiers. Et voilà, et je me disais, même quand on pose une question éternelle dans mon film, on est rattrapé par l'actualité.
Ça l'est. Et vous dites avoir voulu, ça c'est intéressant, privilégier le questionnement intime, mais vous montrez quand même le Vatican tentant de mettre un peu de l'ordre dans ses rangs, traquant les impostures et les faussaires, une communauté, celle à laquelle appartient la voyante, Anna, en conflit avec sa hiérarchie, et qui tire profit de cette apparition pour en faire commerce aussi, d'une certaine manière. L'endroit où elle a eu cette apparition devient un lieu de pèlerinage, avec tous ses produits dérivés, avec cette commercialisation de son image à elle, devenue hyper iconique, tombée dans une sorte d'hyper médiatisation là encore. Qu'est-ce que ça nous dit de la place de l'Église aujourd'hui, au XXIe siècle, Xavier Giannoli?
Vous savez, j'ai fait ce film en réaction, justement, à une sorte d'hystérie médiatique où, pour le meilleur, parfois dans des très bons articles ou des très bonnes émissions, mais aussi pour le pire, le débat sur la religion amène tout de suite une sorte d'hystérisation laïcarde, ou au contraire une hystérisation qui va vers le fanatisme. Bon, et en fait, la religion est très vite envisagée comme quelque chose qui a de l'ordre d'un marqueur social ou politique. Et moi, j'avais envie de me réapproprier une part plus intime, plus obscure et plus étrange de cette quête. Alors, quand vous parlez de l'Église, je sais qu'en faisant ce film, j'ai découvert que même si je ressens une distance par rapport à l'institution catholique, le message chrétien a quelque chose de beau, de nécessaire, et que peut-être nos sociétés aujourd'hui, même si on est laïque, il faut bien reconnaître qu'elles, même si elles sont livrées à une forme de chaos, peut-être elles n'ont pas volé en éclats parce qu'il reste en elles un écho de la parole chrétienne, c'est-à-dire la reconnaissance de la souffrance de l'autre, la main tendue vers celui qui va mal, la place de la victime dans nos sociétés, une sorte de rapport chaotique avec l'argent, quelque chose qui va aussi avoir avec l'invisible. À un moment donné, un personnage dit « Le grand péché du monde moderne, c'est qu'on ne croit plus à l'invisible ». Voilà, toutes ces questions-là traversent mon film. Donc moi, la place de l'Église, très vite, ça m'a... L'écriture a amené ça sur le côté. Et que ce qui m'a intéressé, c'était... D'ailleurs, c'est le mouvement du film. Je suis allé tourner dans un désert... un désert des origines, on pourrait dire, c'était d'essayer d'aller retrouver quelque chose de ce trouble essentiel, de le débarrasser du brouhaha médiatique et de voir, est-ce qu'il y a quelque chose de beau, est-ce quelque chose de nécessaire, Est-ce qu'il y a peut-être aussi quelque chose de dangereux? C'est ce questionnement-là, le film.
Mais vous évoquiez aussi à l'instant ce miracle survenu à Lourdes ce week-end et reconnu, celui de cette sœur qui s'est levée de sa chaise roulante et qui a retrouvé l'usage de ses jambes. Vous filmez aussi la croyance aveugle, vous filmez la foule de ces pèlerins qui se rend pour révérer, admirer cette jeune fille qui aurait vu la Vierge. Ce besoin de croire en quelque chose, penser qu'il y a peut-être un au-delà, donne plus de sens à nos vies aujourd'hui encore ?
Je pense que cette question n'a jamais quitté le cœur et l'esprit des êtres humains depuis toujours. Je ne crois absolument pas à cette idée d'un retour du religieux en ce moment. Non, ça a toujours été là, tout le monde s'est toujours intéressé. Il y a eu des flux, des reflux, mais cette question est une question existentielle, consubstantielle à ce que nous sommes. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il n'y a rien? Il suffit d'avoir été confronté à la perte de quelqu'un qu'on aime pour que cette question nous traverse. Et moi, j'avais besoin de savoir où j'en étais.
Au moment de la sortie de Sous le soleil de Satan, Maurice Pialat, à Cannes, en 87, ne disait pas vraiment autre chose.
Personnellement, je ne crois pas du tout qu'il y ait un retour au... qu'il y a un retour à la foi comme certaines œuvres, surtout cinématographiques, après tout, les laisseraient supposer. Je pense que ça ne bougera pas, que c'est irréversible et qu'il n'y aura plus jamais un retour à la foi. Évidemment qu'il y a des choses de substitution, comme par exemple, jamais autant les gens ont été voir des voyantes, les sectes, toutes ces choses parareligieuses. Mais je pense que d'abord déjà ça a plus ou moins existé, ça fait partie d'un phénomène... presque l'époque et qui bougera pas tellement, et que par contre le retour à la foi, moi je peux me tromper, j'y crois pas du tout. Ce qui est difficile aussi, c'est de penser au rapport qu'il y a entre donc l'absence de foi et de croyance qui caractériserait notre époque, parce que ça, c'est par contre incontestable. Il y a une évacuation de tout ce qui est même pas la foi. La mort est souvent ce qui fait, dans une période de déspiritualisation, ce qui a longtemps, et sans doute encore, fait réfléchir, et que ce soit bien sûr la mort de l'autre, la sienne, je ne crois pas qu'on puisse tellement en parler.
Xavier Giannoli.
Il se trompe. S'il y a vraiment un cinéaste que j'admire, c'est bien lui. Mais je dis ça avec respect, mais il se trompe complètement.
En quoi ?
Parce que... Vous savez, quand j'étais en train d'écrire, je suis allé voir, j'ai eu la chance de rencontrer un évêque, j'ai parlé avec lui, et je lui ai posé une question très simple et très concrète. Je lui ai dit, est-ce qu'au moment de mourir, vous allez avoir moins peur, parce que vous êtes croyant, vous avez la foi et vous croyez à la vie éternelle? Et il m'a regardé vraiment comme un enfant, et il m'a dit, vous savez, Xavier, au moment de mourir, je vais surtout me dire, j'espère que je ne me suis pas trompé. Donc, quand j'entends Maurice Pialat adaptant Bernanos et disant « Non, je n'y crois pas, au retour du religieux, etc. etc. », je pense qu'il est à côté de la plaque. D'ailleurs, tout nous le dit aujourd'hui. Maintenant, sous quelle forme maintenant, avec quelle force est-ce que c'est d'une façon diffuse? Est-ce que c'est d'une façon structurée? Est-ce que c'est en respectant un dogme ou au contraire? Non. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit ce génie absolu qui était Maurice Pialat.
C'est-à-dire que d'une certaine manière, vous trouvez aussi que l'époque actuelle croit trop ou trop peu, ou qu'elle croit mal en donnant du sens à des choses qui n'en ont pas vraiment, en oubliant des valeurs essentielles.
Vous savez, je ne veux pas faire de l'anthropologie de comptoir, mais je réfléchissais, je regardais mon petit garçon, voilà, il a 12 ans, il est sur Instagram toute la journée, et il regarde le nombre de likes, et puis il est aussi sur les réseaux sociaux, et faut pas oublier que la religion, le religueré, c'est aussi l'idée de créer un lien social, c'est une façon de relier les hommes entre eux. Alors on peut tout à fait dire aussi que cette espèce d'obsession de Facebook, d'Instagram, la recherche désespérément d'un lien entre nous, oui, bah voilà, c'est une autre mutation. Vous savez, dans mon film, à un moment donné, une phrase qui, hélas, n'est pas de moi, mais de Kierkegaard, qui dit « Souvent la foi voyage incognito ». C'est une phrase extraordinaire. Et effectivement, aujourd'hui, bah, il y a même dans son expression laïque quelque chose de cet instinct étrange, obscur, puissant, profond.
Et qui est la phrase clé du film? Qui est le héros de ce film, en fait? Est-ce que c'est Jacques Vincent Lindon ou est-ce que c'est Anna Galatea Bellucci? Est-ce que c'est la voyante, celle qui a vu ou dit avoir vu en tout cas une apparition de la Vierge? Ou est-ce que c'est ce journaliste qui cherche coûte que coûte à comprendre ce qui s'est passé?
Le héros de ce film, c'est le doute. Parfois, des gens disent « je vais arrêter de faire quelque chose parce que j'ai un doute ». Moi, je commence parce que j'ai un doute. Et que je pense que la reconnaissance dans le film d'un mystère qui nous échappe, d'un mystère sans réponse, c'est quelque chose qui nous humanise. Non, il n'y a pas réponse à tout. Non, il n'y a pas des commentaires sur tout. Non, on peut vivre dans un monde qui n'est pas forcément dans la transparence moderne et l'exhibition de soi et le commentaire permanent. Il y a une part intérieure, plus étrange, quelque chose qui a à voir avec le secret de nos êtres et qui est un doute comme un cœur qui bat. Voilà. Et je crois que c'est ça que j'ai cherché dans le film. C'est la noblesse de ce doute, le mystère nécessaire, l'interrogation qui nous élève et pas le commentaire qui nous abaisse.
Voilà. Et vous l'avez cherché dans le regard de vos deux héros, Anna et Jacques. Vous passez vraiment par les yeux de Vincent Lindon dans ce film pour saisir ce qui se joue en lui et en même temps avec cette icône de la Vierge Marie, les yeux percés, qu'on retrouve tout au long du film. Vous semblez nous dire que c'est pas avec les yeux qu'on voit le mieux.
C'est tout à fait juste. Je disais à Vincent, pendant le tournage, un des clichés quand on parle d'un film, c'est d'aller dire « Ah oui, le film m'a ouvert les yeux sur telle question, le film m'a ouvert les yeux. » Et je disais « Non, là, on va faire un film qui donne envie de fermer les yeux et de retrouver en soi quelque chose d'essentiel et de plus étrange. » Voilà.
Donc révélation, il a eu ou pas, Jacques va découvrir un monde où la preuve est impossible à rapporter. Au fond, il a plus besoin de savoir s'il peut, il a plus besoin de savoir s'il peut croire en elle qu'en cette apparition de la Vierge. Ce qui est intéressant avec vous, Xavier Jalouni, c'est que finalement la réponse, cette forme peut-être de transcendance, va pas se jouer dans son rapport au sacré, il va se jouer dans le rapport à l'autre, croire en l'autre plutôt que croire en un au-delà. En tout cas, c'est comme ça que j'ai peut-être à tort interprété ce film.
Non, on a l'impression que vous avez tout à fait raison, mais je ne peux surtout pas dire pourquoi, parce que ça dévoilerait le suspense du film, mais j'essaie d'aller au-delà de cette problématique religieuse et de redécouvrir quelque chose du sacré humain à travers des personnages qui sont consubstantiels au suspense. Est-ce qu'elle ment ou pas? Est-ce qu'elle a dit la vérité ou pas?
Midi 24 sur France Culture avec le réalisateur Xavier Jalouni pour son film L'Apparition en salle mercredi.
Oui.
Deal with Chaos, l'une des musiques choisies pour l'apparition par vos soins, Xavier Giannoli, extrait de l'album Orphée de Johan Johansson, compositeur de musique de film islandais dont on a appris la mort ce week-end à Berlin. On lui doit notamment la bande originale de Sicario, le film de Denis Villeneuve, ou encore celle d'une merveilleuse histoire du temps de James March. Un géant pour J.D. Beauvallet des Inrocks, à la hauteur d'un Max Richter ou même d'un Arvo Pärt. Sa musique avait fait sienne cette maxime de Victor Hugo, écrit-il, la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste.
Oui, j'ai été bouleversé en apprenant sa mort, puisque sa musique est très très importante dans mon film, comme celle d'Arvo Pärt, avec qui d'ailleurs il avait un dialogue étrange. Et cette musique est extraordinaire, ce qu'on vient d'entendre, puisqu'évidemment on pense à Bach avec le violoncelle, et en même temps on a une sorte de dimension abstraite où on sent des sons contemporains, un décompte comme dans un aéroport. Et c'est une musique qui croit au silence et au mystère.
Et on retrouve d'ailleurs cet équilibre que vous avez recherché et parfaitement trouvé dans le film entre les mots, ici la musique, et le silence, cette profondeur des silences. Hein.
Oui, et puis quelque chose qui a à voir avec l'éternité et le contemporain, une tension, qu'est-ce qu'on a à chercher dans cet arc entre une question éternelle et en même temps quelque chose de la modernité et du monde dans lequel on vit.
Vous l'avez évoqué, Xavier Giannoli, un escroc du BTP qui embarque toute une commune dans sa folie, une chanteuse lyrique qui chante faux et que son entourage entretient dans son illusion, dans À l'origine et Marguerite. Il était déjà question de mensonges et de croyances, de culpabilité, d'homme providentiel, de quête de rédemption par le collectif. Vous savez qu'on va finir par penser que vous cachez quelque chose et que le cinéma est peut-être votre rédemption à vous.
Je me suis interrogé sur pourquoi ces destins, ces personnages, et je crois que une réponse, quelque chose qui a à voir avec l'enfance, à mon avis. J'ai découvert le cinéma à l'adolescence. C'est un moment, l'adolescence, où il va falloir apprendre à négocier avec la réalité quand on a la chance d'avoir été protégé, ce qui est mon cas, enfant, et que peut-être mes personnages n'y arrivent pas. Alors ils s'inventent des projets de route qui vont nulle part, ils s'inventent des carrières de cantatrices improbables, ou ils s'inventent peut-être, supposément, des apparitions. En tout cas, ce sont des gens qui ont du mal à négocier avec la réalité, qui s'y cognent, qui ont peur. Voilà, c'est un enjeu de la vie important. Il y en a qui vont fuir ça dans le pétard, ou au contraire dans l'alcool, dans l'idolatrie, ou dans les médicaments. Et moi, ils ont un geste fou de chanter, de construire, de parler d'une apparition. Peut-être qu'il y a ça. Vous savez quoi, comme on en parlait tout à l'heure, je ne sais pas.
On pourrait terminer sur ces trois mots-là, mais quand même, je voulais préciser que vous êtes, et vous n'en avez pas fini avec ce questionnement, aussi en train d'adapter Les Illusions Perdues de Balzac. Il y a eu une mini-série de Maurice Cazeneuve qui était sortie en 66, qui s'y était déjà prêtée. C'est un projet que vous avez depuis longtemps, visiblement qui n'est pas si facile à réaliser, qui peut mettre du temps, peut-être parce que c'est une adaptation littéraire et que ça demande beaucoup de moyens, peut-être aussi parce qu'elle vous touche particulièrement. Dans Les Illusions Perdues de Balzac, il y a ces mots, la résignation est un suicide quotidien. Vous n'êtes pas du genre, vous, à baisser les bras ?
Non, je ne lâcherai jamais et j'y arriverai, je veux le faire en 1821, donc pendant la Restauration. Et surtout, c'est l'effet miroir quand on lit la deuxième partie d'Illusions Perdues qui s'appelle Un grand homme de province à Paris, où quelque chose de notre modernité est en train de se construire et peut-être quelque chose de notre monde est en train de se défaire dans le rapport à l'argent, à la compromission, qu'est-ce qu'il faut abandonner de soi-même pour réussir à travers le destin d'un jeune provincial qui débarque à Paris, qui est la ville de toutes les compromissions décrites dans le roman. Et voilà, j'espère que je vais pouvoir faire ça. J'espère vraiment du fond du cœur.
Merci beaucoup Xavier Giannoli. L'apparition avec Vincent Lindon est en salle mercredi sur tous nos écrans. Merci beaucoup.